C'est la sortie du film hier qui vous a donné l'idée d'en savoir plus sur Minor, Jacques Pradel.
Mais oui,
Sa Majesté
mais oui,
Minor, le film de Jean-Jacques Haneau, l'occasion pour nous de nous intéresser à la mythologie grecque, à toutes les figures mythologiques qui en font la richesse. Et nous recevons pour cela une spécialiste de l'antiquité gréco-romaine. C'est Catherine Salle, qui est maître de conférences de civilisation et de littérature latine à l'Université Paris 10 Nanterre.
Bonjour Catherine Salle.
Bonjour.
Alors je suis ravi de vous avoir avec moi pour passer la matinée. Vous êtes la femme de la situation. Un spécialiste de l'antiquité gréco-romaine, comme vient de le rappeler Julie. Vous êtes maître de conférences et de civilisation et de littérature latine. Et en même temps, on est avec ce film qui sort de Jean-Jacques Haneau, que vous n'avez pas vu, je le dis tout de suite. Hein. Vous n'avez pas encore eu le temps,
non.
Mais il est sorti hier. Alors peut-être qu'on aura ce matin au téléphone, au standard, des auditeurs d'Europe 1 qui ont vu, et des auditrices qui ont vu le film. Mais l'un des mérites de ce film, qui n'est pas le moindre, c'est justement de nous rappeler que finalement, nous sommes l'aboutissement d'une très très longue histoire dont les racines vont plonger au long des siècles. Là, avec le film d'Haneau, il dit on est au XVIIe siècle avant notre ère. Hein, je dis. Alors voilà, bon, avec José Garcia, il faut que vous alliez le voir parce
qu'il y a
vraiment quelque chose à ne pas rater.
Oui.
C'est quand même José Garcia en cochon.
Oui,
non, mais c'est une performance d'acteur, je trouve. Moi, j'ai vu le film absolument extraordinaire. Vincent Cassel en dieu Pan, obsédé sexuel évidemment, mais ça vous nous direz
la nature du dieu,
vous nous direz voilà justement là ce qui est de domaine de la création d'aujourd'hui et de la réalité du mythe ancien. Ce film qui est censé se passer, cette histoire qui est censée se dérouler dans une Grèce très très lointaine sur une île, nous emmène aux origines de l'humanité, avant même peut-être la création des premiers mythes, dans un temps où on a l'air de comprendre que, d'ailleurs le réalisateur le regrette, dans un temps, enfin pour aujourd'hui, où il n'y avait pas ces tabous, où tout le monde était finalement bénéficié d'une liberté extraordinaire. Alors ce cadre-là, d'abord, avant d'aller plus loin, Catherine Salle, est-ce qu'il correspond à ce que l'on sait de ces époques très reculées ?
Oui, c'est le film d'Haneau se passe pendant ce que les anciens appelaient l'âge d'or. L'âge d'or qui est le premier âge sur la Terre où les dieux, les animaux et les hommes vivaient en parfaite harmonie. Et puis après, il va y avoir l'âge de bronze, l'âge de fer, où toutes les correspondances entre les dieux et les hommes seront coupées.
Et les dieux qui devaient prendre forme humaine, parce qu'un humain ne pouvait pas les voir sous la forme de dieu, sauf à risquer gros. Hein,
et puis ce sont des dieux qui sont mi-hommes, mi-bêtes. Hein. On le voit bien dans le cas de Pan, qui a
des sabots. On en a fait le diable beaucoup plus tard.
Oui, parce que c'était
cornes,
un dieu très, très lubrique, enfin, qui était très animé, si l'on peut dire, d'une vitalité, d'une activité sexuelle permanente, c'est-à-dire qu'il sautait sur tout ce qui bougeait
voilà.
Pour parler vulgairement.
Voilà.
Et
donc que ce soit homme ou femme, quel que soit le sexe.
Homme ou femme, et même quelquefois.
Et les végétaux,
et
les arbres,
végétaux,
comme on
ça,
le voit
là, dans le film, il y a un arbre, effectivement, qui subit les assauts de Pan.
De Pan, voilà, de Vincent Cassel, et on va pas dire de Pan, du personnage qu'il incarne. Alors, ce qu'on sait moins, et alors, bon, on va beaucoup parler de ça, parce que est-ce qu'il y a eu un dieu, vraiment, dans l'Antiquité très ancienne, puisque là on commence, il y a une porte de porcherie, on va pas raconter le film trop pour ceux qui l'ont pas encore vu, qui nous reprocheraient d'abîmer leur plaisir, mais très vite quand même au début, il y a une porte qui s'ouvre, une horde de cochons comme ça qui sort, et puis à quatre pattes au milieu de tout ça, il y a un humain. Alors ce garçon comprend dans le film que c'est une sorte de non-humain pour les gens qui vivent à l'époque, et on l'a trouvé un jour sur une plage, dans les bras de sa mère morte, tétant son sein, et il n'avait jamais parlé, alors on l'a élevé avec les cochons.
Oui, ça rejoint beaucoup d'histoires de l'Antiquité où un enfant divin ou non divin est recueilli par une bête et élevé par une bête. L'exemple le plus célèbre est évidemment Romulus et Rémus avec la louve, mais il y en a d'autres.
Ouais.
Et je me demande si Jean-Jacques Haneau et Gérard Brache, en fait, qui a fait le scénario de ce film, ont pensé à l'épisode de l'Odyssée. où Ulysse aborde dans l'île de Circé, qui est une magicienne, ouais. Et il envoie ses compagnons pour savoir qui habite cette île. Ouais. Et les compagnons arrivent chez Circé, qui avec sa baguette magique les transforme en cochons.
Voilà. Et donc ils se retrouvent. S'il cède à ses charmes, voilà. C'est ça le.
Ouais. Et donc ils sont cochons, mais en même temps ils ont gardé leur intelligence et leur pensée humaine. Enfin, ce sont des êtres hybrides aussi. Ils sont sous la forme de cochons. Bon, à la suite de l'épisode, Circé. Les retrouver forme humaine, mais par la suite, beaucoup plus tard que l'Odyssée, beaucoup d'écrivains grecs et même en France se sont interrogés sur les pensées de ces cochons, de ces hommes cochons. Et on voit que bon, c'est évidemment sous forme de parodie, de comique, que ces cochons, en fait, disent après tout, on est très bien en tant que cochon, beaucoup mieux qu'en tant qu'homme.
Oui, il y en a un qui, d'ailleurs, dans l'histoire ancienne, dans la légende ancienne, je crois, vieux souvenir, il y en a un qui refuse de.
Qui refuse.
Parce c'est Ulysse qui lui demande, Ulysse lui dit, mais il faut revenir.
Il faut quand même, on est beaucoup mieux en homme qu'en cochon. Ah non, je suis bien cochon, là. Je me vautre dans la fange, j'ai des petites truies autour de moi, je suis très bien. Et alors, évidemment, ça permet à certains philosophes grecs en particulier de déterminer quelles c'est la différence qu'il peut y avoir entre l'animalité et l'humanité. Mais je me demande, parce que ça, j'aurais bien aimé avoir Jean-Jacques Hano en face de moi pour lui demander.
On devait l'avoir au téléphone et malheureusement, on l'aura
pas. Cet épisode de l'Odyssée l'avait inspiré.
Écoutez, je sais pas, il nous écoute peut-être, parce que je crois qu'il a dû partir. Il est en avion, voilà. Il est parti, donc il nous écoute pas en avion. On n'écoute pas encore Europe 1 en avion, on est désolé. Mais en tout cas, ça y fait fortement penser, quand même, parce que. Sinon, parce que l'histoire qu'il raconte, c'est à la fois comment finalement on va créer un dieu. On part de ce personnage donc qui est incarné par Garcia, mais et on va en faire
En faire un dieu. Bon. Oui, j'ai vu ça. Oui.
Alors qu'est-ce que on sait de ça au départ quand, dans la mythologie antique, les dieux ils nous sont, j'allais dire, imposés. Ils existent, quoi.
Vous savez, la mythologie n'est pas une science exacte.
Non,
elle s'est forgée au cours des siècles. Ouais. C'est-à-dire qu'on a encore des personnages mythologiques qui sont forgés au début de notre ère. Hein. Il ne faut pas croire que tous ces dieux ont existé dès l'origine.
Ouais.
C'est petit à petit que ça s'est forgé.
Ouais.
Alors le premier texte que nous avons concernant des dieux, ce sont les poèmes homériques, c'est-à-dire dans l'Iliade et dans l'Odyssée, où on voit des dieux avec des personnalités, avec des apparences physiques déterminées, et ces dieux sont déjà honorés dans la plupart des villes de Grèce. Mais si l'on prend un poème qui est un petit peu postérieur à l'Odyssée, qui est la Théogonie d'Hésiode, lui fait imagine la création du monde, donne une version de la création du monde, ce n'est pas la seule. Où il dit qu'il y a le chaos à l'origine et que de ce chaos va surgir la Terre. Et c'est la Terre, Gaia ou Gaïa, selon les termes, qui devient la première divinité. Divinité absolument régnant sur tout. Et elle va créer Ouranos, c'est-à-dire le ciel, et pendant la première partie de leur existence, Ouranos est couché sur la Terre. Alors Ouranos est un principe masculin, Gaia est un principe féminin.
D'accord.
Et Ouranos ne cesse de faire des enfants à Gaïa. Et ses enfants, étant donné, enfin, il faut imaginer la scène, étant donné qu'Ouranos est en permanence sur Gaïa pour lui faire des enfants,
les
enfants
ne peuvent pas. Réponse à ce monstre,
oui,
on dit,
mais les
sur
enfants
la terre,
ne peuvent non, dans le ventre de Gaïa.
Le ventre de Gaïa.
Et les enfants ne peuvent pas sortir. Ils sont tous dans le ventre de la mère. Ils restent. Ils ne peuvent pas sortir. Et Gaïa en a assez, on comprend. Gaïa en a assez. Alors elle fabrique une serpe de fer, de métal, et on ne sait pas très bien comment, elle la donne à un des enfants qui est dans son ventre,
pour
qui est Cronos. Et l'enfant qui est dans le ventre va couper le sexe de son père. Donc forcément, le père est détaché de la mère. Alors, le sperme d'Ouranos va se répandre sur les flots, et c'est de ce sperme que sort Aphrodite, la déesse de l'amour.
D'accord.
Donc, Ouranos est séparé de la Terre, c'est-à-dire que le ciel devient un autre monde que celui de la Terre, et tous les enfants sortent les uns après les autres du ventre de Gaïa, qui sont déjà donc à l'âge d'homme.
Ouais.
Alors, il y a Cronos, ses frères et ses sœurs, et on va voir se répéter la même histoire par la suite, puisque Cronos bien sûr va épouser une de ses sœurs, mais lui aussi ne veut pas avoir d'enfant. C'est quand même un mythe qui n'a pas du tout été utilisé par la psychanalyse et qui est quand même très fort, je trouve.
Oui.
D'une part, Ouranos
qui
ne laisse pas sortir ses enfants, et ensuite Cronos qui ne veut pas avoir d'enfant, qu'il détrônerait.
Ouais.
Et par conséquent, chaque fois qu'un enfant naît à sa femme, à son épouse Rhea, qui est une divinité aussi, la divinité le lui apporte et il l'avale. jusqu'au dernier, parce que Réa, elle aussi, c'est de mettre au monde des enfants qui deviennent la nourriture de son mari.
Bah oui.
Et pour le dernier, elle va prendre une grosse pierre qu'elle va mettre dans des langes et elle va la porter à Cronos qui, bien sûr, glouton comme il est, va avaler la grosse pierre avec les langes.
Voilà.
Et le seul enfant donc qui va subsister, c'est Zeus, en fait. Hein, c'est le petit Zeus. Ouais. Et sa mère va le faire élever en Crète par une chèvre, la chèvre amaltée, qui va le nourrir de son lait. Et on mettra autour des personnages divins qu'on appelle les corybantes, qui dansent en agitant des cymbales, des tambours, qui font beaucoup de bruit. Donc, Cronos n'entend pas le bruit, les cris de son enfant.
Bien sûr.
Et arrivé à l'âge adulte, Zeus va se présenter devant son père, va l'obliger à vomir tous les enfants qu'il a dans le ventre, oui. En tout cas, c'est assez curieux. Et à ce moment-là, il va y avoir donc 12 enfants. Et ce sont les grandieuses olympiens, c'est-à-dire Zeus, Poséidon, enfin tous ces dieux-là, qui font devenir les dieux honorés en Grèce. C'est-à-dire que dans la Grèce ou dans l'Asie mineure, les divinités des origines ne sont pas honorées. Il n'y a pas de...
On va revenir sur tout ça. Ce sont des histoires passionnantes, une imagination extraordinaire. On va voir avec vous, Catherine Salle, dans un moment, qu'est-ce qui reste encore? Est-ce que ces mythes très anciens ont encore une empreinte, peut-être dans notre tête ou dans notre vie quotidienne, ou tout simplement dans le vocabulaire que nous utilisons? Je ne dis pas tout ça par hasard, évidemment. Et puis, tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir vous interroger aussi, ceux qui ont peut-être vu déjà depuis hier le film de Jean-Jacques Hano. Le standard, c'est le 01 42 32 15 15 pour vos questions par téléphone. Si vous préférez nous envoyer un courriel, vous utilisez europe1.fr. À tout de suite.
À l'occasion de la sortie du film Minor, ça s'appelle plus exactement Sa Majesté Minor, le film de Jean-Jacques Hano, on est en train de revisiter ce matin la mythologie grecque, Jacques Pradel.
Voilà, et je vous rappelle donc que vous pouvez, si vous avez vu le film ou si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes passionné, en tout cas de mythologie, ça existe, parce que ce sont des univers passionnants. On vient d'en avoir un exemple avec Catherine Salle. Moi, je me lasse pas de ces histoires extraordinaires, parce que on se dit non, là, c'est déjà énorme, et non, il va être élevé par sa chèvre, et on va jouer des cymbales pour qu'on n'entende pas le cri de l'enfant. Je trouve ça absolument génial. Donc, vous pouvez nous appeler au 01 42 32 15 15 si vous voulez en savoir plus sur la création des grands mythes de l'humanité, ce qui demeure encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a une empreinte. Et on va dire aussi, parce qu'on a complètement oublié de le dire, c'est que il y a Minor n'est pas une légende ancienne, c'est-à-dire que Sa Majesté Minor n'a existé que dans le cerveau de Gérard Brach, le scénariste, et de Jean-Jacques Hano, le réalisateur.
Oui, il ne faut pas confondre avec Minos, qui est
Minos, bien sûr, qui est le roi
de Crète. Et Minos et le Minotaure, mais c'est tout à fait autre chose.
Ouais. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, et puis après, on s'échappera du film de Jean-Jacques Hano qui nous a donné ce prétexte, finalement, ce matin. On va revenir sur les personnages qu'on rencontre au détour du film, en essayant, parce que sinon, Julie me fait les gros yeux, elle a horreur. Hein, vous avez horreur d'aller au cinéma quand on vous a raconté une partie de l'histoire.
Ah oui, faut pas raconter avant, non.
Alors, en fait, attention, mais là, il fallait dire, quand même, d'où venait ce garçon. Oui. Pourquoi? Bah oui, quand même, c'est le début de l'histoire. Bon, alors, au fil de l'histoire que je ne raconte pas, on va rencontrer, par exemple, on en a déjà parlé, alors parlons-en tout de suite, ce personnage incarné par Vincent Cassel, le dieu Pan. Alors, il se présente quand même sous la forme d'un homme qui a la tête d'un homme avec
des cornes de bouc, oui.
Voilà, et puis le corps, donc...
Le corps d'un homme est terminé par deux pattes de bouc,
voilà. Et avec un sexe
très
énorme,
oui. Bon. Ça, c'est tout à fait conforme au modèle original.
Voilà. Et qui saute sur tout ce qui bouge, que ce soit, comme vous l'avez dit, végétal, animal.
Animal, homme ou femme.
Homme ou femme, voilà.
Alors, c'est un dieu des bergers, Pan. Oui. Il est honoré sans doute à l'origine dans l'Arcadie qui est la terre des bergers chez les Grecs. Oui. C'est cette partie qui se trouve à peu près au nord-centre du Péloponnèse, où il y a énormément de montagnes, énormément de bois. C'est une région peu habitée. Oui. Et Pan, c'est donc le royaume de Pan. Oui. Et ce Pan est présenté comme d'une agilité prodigieuse. Il saute d'une montagne à l'autre, il saute au-dessus des arbres, il peut faire tout ce qu'il veut. Mmh. Et Et il y a beaucoup de légendes, parce que vous savez, la mythologie donc n'est pas une science exacte, et donc on donne des pères différents aux personnages. Alors pour les uns, il est fils d'Hermès, ça serait plus vraisemblable. Pour les autres, il est fils de Zeus. Mais enfin, il est d'origine divine. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est d'origine divine. Et il y a même une légende, mais très postérieure, bien entendu, aux premières légendes, qui dit que Pan est le fils que Pénélope aurait eu avec tous les prétendants. Hein, les 120 prétendants, elle aurait eu des relations avec les 120 prétendants, et de ces 120 prétendants et de Pénélope serait né Pan. Bon, là, on entre vraiment dans la démesure encore. C'est vrai que c'est une divinité familière des bergers, mais il fait peur aussi. Et c'est pour ça qu'on parle d'une peur panique. Ah, la panique, ça vient de Pan. Peur panique vient de Pan. C'est la peur que suscite Pan en courant après les nymphes, après les, les jeunes bergers.
Il fait peur
sûr.
Parce qu'il a une santé libido un peu trop.
C'est ça. Et il y a aussi un problème pour les Grecs, c'est que le mot Pan en grec veut dire tout, théouté, l'ensemble. Alors on forge une légende selon laquelle le petit bébé Pan aurait été apporté sur l'Olympe aux pieds de Zeus et que il était déjà tellement drôle à voir avec ses petits pieds de bouc, son corps d'homme, que tous les dieux se seraient mis à rire et donc il aurait réjoui tous les dieux. Donc Pan. Enfin bon, vous voyez que très loin ça correspond pas très bien. Mais c'est l'explication que pouvaient donner certains anciens.
Mais alors j'ai une question. On reviendra sur les détails plus tard. Catherine Salle, mais il y a toujours un message à la fois dans les histoires que racontent ces mythes et aussi dans les personnages, ce qu'ils représentent. Donc lui, c'est quand même cette sexualité extrêmement débridée.
La force primitive de la nature, en fait, puisque c'est un dieu de la nature. Oui. Et il est assimilé à la nature par son côté bouc. Les boucs étant réputés pour les anciens comme étant particulièrement déchaînés. Et donc, c'est vrai qu'il est le représentant de la nature. Et on le voit d'ailleurs très souvent avec des couronnes de feuilles, avec des.
Mais alors, il y a toujours un mode d'emploi, comme il y a un mode d'emploi pour les contes et les légendes qu'on raconte aux petits enfants. Le mode d'emploi d'un dieu comme Pan pour les humains, c'est quoi? Parce que il a vraisemblablement été inventé par quelqu'un qui vivait dans une société
où berger.
Il n'était pas permis de sauter sur n'importe qui.
Mais justement, cette force primitive, parce que c'est une force primitive, doit être canalisée. C'est-à-dire que lorsque l'on arrive à l'époque des dieux olympiens, c'est-à-dire où les grands dieux qui règnent sur le monde sont Zeus pour le ciel, Poséidon pour la mer, Hadès pour les enfers, etc., etc., et bien à ce moment-là, toutes les forces primitives sont rejetées au second plan. D'accord. Donc elles n'apparaissent que provisoirement, mais ce ne sont plus des forces très importantes dans la vie des hommes.
D'accord. Alors évidemment, Pan courait après les nymphes. On va parler des nymphes dans un tout petit instant.
Nous sommes avec une spécialiste de l'antiquité gréco-romaine, Catherine Salle, qui peut répondre à toutes vos questions sur la mythologie, 01 42 32 15 15 ou europe1.fr.
Oui, entre autres livres, on peut citer celui-ci, La mythologie grecque et romaine, qui est paru en édition de poche chez Hachette Littérature, et qui permettra à ceux qui sont passionnés de ces questions d'aller plus loin avec Catherine Salle. Il faut dire que vous en parlez d'une manière qui peut faire naître, à mon avis, des vocations, vous voyez. Alors, on était parti évidemment du point le point de départ, c'est Sa Majesté Mineure, le film donc de Jean-Jacques Hano qui est sorti hier sur les écrans un peu partout en France, qui a déjà suscité pas mal de réactions positives et négatives, il faut bien le dire. C'est-à-dire que c'est un sacré pari en tout cas, de faire un film atypique, une sorte d'ovni comme ça, comme le disait d'ailleurs je crois Bruno Kras, un film vraiment à part. Alors faut entrer dedans, et puis en même temps on s'aperçoit, moi ça a été mon cas, moi je suis payé par personne pour dire du bien du film de Jean-Jacques Hano, j'ai été dérouté, je dois le dire, mais en même temps une heure, deux heures après, j'avais plein de flashs qui me remontaient dans la tête. Ah oui, mais il y a la scène de ce aussi. Et il y a la scène. Alors, peut-être que le film peut paraître comme ça, parfois décousu, mais en fait, les images sont très fortes et elles nous touchent. Alors, on parlait du dieu Pan. Après qui court-il? Après les nymphes et les nymphettes. Il y a une différence d'ailleurs.
Non. Le bon nymphette, oui. Je pense, ouais. est une invention de Nabokov, hein, pour lorsqu'il a fait Lolita.
Vladimir Nabokov, le patron, Lolita, le père,
oui,
le patron,
oui.
l'auteur de Lolita,
puisqu'il traite effectivement la petite fille de nymphette. Oui. Je pense que c'est lui qui a dû inventer ce nom, parce qu'on parle de nymphes généralement.
Voilà, mais il faisait une référence, Nabokov, à la chrysalide du papillon, en fait.
Oui.
Et alors, donc, ces nymphes, elles sont censées, dans ces mythes anciens...
Ce sont des personnages charmants, les nymphes. Ce sont de belles jeunes femmes, d'origine divine. Ouais. La plupart sont filles de Zeus. Et elles habitent, elles aussi, dans la nature. C'est-à-dire qu'elles sont les compagnes toutes trouvées de Pan.
Près des sources, des
rivières.
Alors
oui, les sources, des rivières, les arbres. Ouais. Elles portent d'ailleurs des noms différents. Ouais. Puisque si elles sont des nymphes de la montagne, on les appelle les Oréades, parce que Oros en grec veut dire la montagne. Si elles vivent, il y en a certaines qui vivent à l'intérieur des arbres, ce qui explique peut-être aussi l'arbre du film. Ça s'appelle les Amadriades. Il y en a qui vivent dans l'eau, ce sont les Naïades. Et la plupart des personnages de légendes mythologiques, en particulier des amours des dieux avec des nymphes, sont bien connus. Il y a Daphné qui va devenir un laurier, il y a Écho qui va devenir simplement l'écho de la voix,
Callisto
qui va devenir un ours, etc. Donc elles sont considérées par les humains comme étant des sortes de bonnes fées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'énormes pouvoirs, mais elles peuvent.
Et d'un mot, elles cèdent aux avances du satyre ?
Généralement, elles
fuient. Ou elles s'échappent, voilà.
Parce qu'elles font très souvent partie de l'escorte de divinité. C'est-à-dire que, par exemple, Diane, donc Artemis, a une escorte de nymphes. Et alors, ces nymphes sont très soucieuses de garder leur virginité, comme leur maîtresse, qui a Diane.
Et donc, elles courent vite, pend aussi, mais pas assez vite. Voilà. On va se retrouver tout à l'heure pour continuer à parler de la naissance de ces grands mythes de l'humanité avec vous, Catherine Sall.
Sa Majesté Minor, c'est le film de Jean-Jacques Haneau qui est sorti hier. Alors, qui est Minor? Ben, c'est un homme transformé en cochon. Une histoire inventée de toutes pièces par le scénariste du film, Gérard Brache, mais qui a pu être inspirée par un épisode de l'Odyssée d'Homère, au cours duquel Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île où vit l'enchanteresse Circé. C'est elle qui, d'un coup de baguette magique, va les transformer en cochon. Alors, comme on retrouve des tas de figures mythologiques dans ce film, c'était l'occasion de consacrer toute une émission à la mythologie grecque et romaine. Et pour cela, on a fait appel à Catherine Sall, une spécialiste de l'Antiquité. Elle est auteure d'ailleurs de nombreux ouvrages consacrés à l'Antiquité, comme le Larousse des civilisations antiques, paru sous sa direction, ou encore la mythologie grecque et romaine, qui est paru en édition de poche chez Hachette Littérature. Catherine Sall est maître de conférences de civilisation et de littérature latine à l'université Paris 10. Paris 10, c'est Nanterre.
Elle nous rend, et on peut en juger sur pièce, hein, depuis tout à l'heure, extrêmement proche ces histoires qui pourtant remontent à un passé tellement lointain qu'il est impossible de dater, hein, je pense, les mythes. Hein.
Oui.
On a une idée comme ça, mais...
je vous dis, ce sont les poèmes homériques qui en parlent pour la première fois. Donc les poèmes homériques se situent au 12e siècle avant Jésus-Christ, mais ont été composés vers le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ.
Donc avant... Il nous parle du 12e siècle, mais il a écrit au 6e ou 7e. Ouais, d'accord. Alors, on reste dans le film de Jean-Jacques Haneau, évidemment. Son idée, mais là on parle pas, là c'est pas une analyse cinématographique, mais c'est dans ce récit, à tous les coins de décor, si j'ose dire, sur cette île qui est censée être quelque part, peut-être dans les Cyclades, on tombe sur une divinité. On a déjà parlé du dieu Pan, des nymphes et des nymphettes, il y a un petit instant, on tombe sur cet homme cochon, que finalement la population va ériger après qu'il soit ressuscité, en fait, en Dieu. Alors, ce thème de la vie après la vie et de la réincarnation existe dans ces vieux mythes de l'humanité ?
Oui, pour certains personnages, c'est vrai que après leur mort, ils deviennent soit un animal, soit un être. Beaucoup, par exemple, je parlais tout à l'heure de Daphné. Oui. Daphné qui est aimée par Apollon, elle va devenir, Daphné en grec, c'est le laurier. Donc elle va devenir un laurier. Vous avez donc ces ce qu'on appelle les métamorphoses. Hein. C'est pas tout à fait la revie après la mort, voilà, mais c'est la métamorphose, le passage d'un règne, par exemple le règne humain, au règne végétal ou au règne animal.
Mais souvent dans ce sens-là, apparemment, Catherine.
Souvent
parce que
dans ce sens-là.
Dans le film, c'est le contraire.
C'est le contraire. Mais
oui,
mais parce que c'est très très longtemps. Parce qu'à l'époque plus classique, tout ce que l'on a autour de soi, les fleurs, les arbres, les rochers même, sont en fait d'anciennes divinités qui, pour une raison ou pour une autre, donc ça va donner lieu à des légendes extraordinaires, été transformées en rochers, en îles, en volcans. Hein, on pense que sous les volcans de la Méditerranée, il y a les géants que Zeus a vaincus. Et donc ces géants sont enchaînés sous les volcans et ils râlent. Oui, ils sont en colère terriblement, donc ils soufflent.
C'est donc ça, les éruptions volcaniques. Alors voilà. Alors, il y a également une sorte de chaman infernal qui est incarné par Bernard Allaire dans ce film et qui apparemment vénère un arbre.
Oui.
Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces...
C'est tout à fait vraisemblable. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre que l'anthropomorphisation, c'est un terme long, des dieux, c'est-à-dire la représentation sous forme humaine, est tardive. D'ailleurs, dans toutes les religions, c'est tardif.
Donc on a certainement
et à l'origine, on adorait des icônes qui étaient soit des pierres, soit des arbres, soit... Non, ça c'est très très vraisemblable. Et ce n'est que petit à petit qu'on va... donner des caractères humains à ces dieux, et à partir de là, faire une mythologie sur ces lieux.
Ouais. Mais quand est-ce qu'on va commencer à faire des statues? Parce que toute l'histoire du film, à un moment, c'est que, justement, Minor va devenir... Oui. Cette statue, d'ailleurs, disproportionnée. On pense à ces statues égyptiennes
qui sont
à 4, 5, 10 fois la taille humaine.
Alors, on a... apparemment, parce que là aussi ce n'est pas très clair, mais apparemment des représentations divines dans les statues trouvées en Crète, donc ça remonte effectivement à peu près à l'époque de où se situe Minor.
Trouvées par des archéologues.
Des archéologues, on pense que ce sont des divinités, en particulier les déesses aux serpents, on pense que ce sont des divinités. Ouais. On a des représentations probablement divines d'icônes, parce qu'elles sont pas encore bien, à la fois, bien sorties du bloc de pierre, d'objets de culte que l'on trouve dans la Grèce centrale ou dans le Péloponnèse. Oui, ça c'est ça. Et puis petit à petit, on voit apparaître les dieux avec leurs caractéristiques et surtout leurs attributs, c'est-à-dire Zeus avec la foudre, Poséidon avec son trident, etc., etc.
Alors, il n'y a pas que des dieux dans le film de Jean-Jacques Hano, mais il n'y a pas que des dieux non plus dans les légendes très anciennes, dans les mythes très anciens. Il y a la fille du chef, Clitia. Alors, je ne sais pas s'il y a une référence ou un clin d'œil, là, avec le prénom, ça vous dit quelque chose?
Clitia veut dire célèbre.
Célèbre
en grec.
Voilà. Bon.
Célèbre.
Mais il y en a une, c'est la Pythie, qui s'appelle pas la Pythie dans le film, j'ai oublié, mais une Pythie, c'est-à-dire une femme qui va faire des prédictions.
Alors oui, là, la Pythie, bien sûr, c'est une référence à celle de Delphes,
cette femme. De Cassandre.
Qui
annonce que les malheurs, quoi.
Pas forcément, la Pythie, on vient la consulter, et alors elle se met sur son trépied, au-dessus d'émanations venant du sol, c'est un endroit volcanique, Delphes. Et elle est prise d'enthousiasme, c'est-à-dire elle est entièrement prise par le dieu qui rentre dans elle, et elle va, prophétiser. Elle s'arrange parce que c'est très très organisé, les prédictions de la Pythie. Il y a autour d'elle des prêtres qui notent ce qu'elle dit. Et ils s'arrangent quand ils retranscrivent, parce qu'après ils vont retranscrire sur des tablettes qu'ils vont donner aux pèlerins. Ils s'arrangent à donner toujours un double sens. Ce qui fait que, de toute façon, l'oracle de la Pythie sera bon.
Voilà.
On prend
ce qui nous plaît, on oublie ce qui nous plaît pas. Voilà. Et on se rappelle toujours, évidemment, des bonnes nouvelles plutôt que des mauvaises. Alors, évidemment, dans le film, ça donne lieu à certaines scènes assez cocasses parce que, enfin, la Pythie, on va l'appeler comme ça, qui est dans le film de Jean-Jacques Hano, elle prophétise à tour de bras et toute la journée, et eux, ils voudraient avoir un moment tranquille, quoi. Ne serait-ce que pour manger, Ils disent, mange d'abord.
De Cassandre, d'ailleurs.
Alors, elle est plus proche, parce qu'elle n'annonce que des catastrophes.
Et Cassandre, personne ne voulait l'écouter, parce qu'elle agaçait tout le monde avec ses prédictions.
Et alors, il y a aussi un autre personnage, et on en aura quasiment terminé avec les personnages qu'on trouve dans le film de Jean-Jacques Hano, c'est la Vestale.
Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi il a mis une Vestale.
Alors,
parce que la Vestale, c'est romain, ça. C'est pas du tout grec.
C'est bizarre, oui.
C'est une des prêtresses de Vesta.
Oui.
Il y avait certainement une raison pour mettre
la Vestale.
Peut-être,
Ouais. Et alors, et le, on est passé très très rapidement sur la fille du chef, qui est absolument magnifique. Oui. Là, je parle de l'actrice Mélanie Bernier, bien sûr, et qui se sert beaucoup de son corps pour prendre la défense d'un condamné. Donc c'est une plaidoirie finalement qu'elle fait avec son corps.
Oui, ça on voit qu'elle
c'est
est
très le... chaud comme oui. comme scène, je dois dire d'ailleurs.
On voit qu'elle est le, enfin probablement les, l'origine de cela. Ouais. Dans l'Athènes de l'époque classique, c'est-à-dire 5e siècle avant notre ère, il y avait beaucoup de courtisanes qui avaient des rôles très importants parce qu'elles étaient les compagnes des hommes d'État. Et il y en avait une qui était particulièrement belle, qui s'appelait Phrynée. Et Phrynée a été mise en procès, je ne sais plus pour quelle raison, parce qu'elle avait dû prendre de l'argent. Et son défenseur, au lieu de préparer un discours de défense, a fait venir Phrynée devant le tribunal, lui a retiré tous ses voiles, toute sa robe et tout ce qu'elle avait, donc elle s'est présentée nue.
La vérité toute nue.
Et les juges ont été tellement éblouis par cette beauté féminine
qu'ils ont gracié. Voilà.
Alors ça peut peut-être venir de là.
Alors ça vient peut-être de là. Vous faites une excellente enquêtrice sur les scénarios.
On reprête peut-être des intentions qu'ils n'ont pas, mais on connaît cette histoire de Phrynée qui avait servi de modèle à Vénus, c'est-à-dire les sculpteurs l'avaient utilisé comme modèle de l'Aphrodite.
Alors, on va se retrouver dans un petit instant avec vous, Catherine Salles. On va jouer un jeu grâce à vous. Vous êtes venue avec un texte. Elle est venue avec un texte. On va jouer tous les deux. Je lui dis, mais vous ferez l'arbitre.
Hein? D'accord.
D'accord. Vous allez voir, c'est pas triste. Parce que j'avais dit, on avait fait dire à Catherine Salles que ça serait bien de profiter de l'émission pour voir ce qui nous reste aujourd'hui comme empreinte de ces mythes très anciens. On va jouer à ça, puis après, on aura plein de choses à dire. Il y a aussi beaucoup de questions qui s'adressent à vous. On y viendra tout à l'heure, 01 42 32 15 15 pour les questions par téléphone, europe1.fr si vous préférez nous envoyer un courriel.
Et on est toujours avec Catherine Salles, on est en pleine mythologie grecque et romaine, tout cela à l'occasion du film de Jean-Jacques Annaud.
Sa Majesté.
Pas mal d'allusions dans Sa Majesté Mineure.
Voilà, qui nous raconte, on est censé être transporté au XVIIe siècle avant notre ère, dans cet âge d'or dont parlait Catherine Salles au début de l'émission, c'est-à-dire un moment où il n'y avait pas de péché, pas de tabou, et où les dieux, période bénie donc, était mélangée aux hommes, s'était mélangée aux hommes sous une apparence évidemment humaine, et on a une très belle galerie de portraits de figures mythologiques dans le film de Jean-Jacques Annaud. Tout ça nous a donné l'idée de faire appel à une spécialiste et de voir à la fois comment sont constitués ces mythes, qu'est-ce qu'ils racontent. Il y en a tant d'autres, hein, bien sûr. Et puis aussi, une des questions que j'avais posées à Catherine Salles en préparant l'émission, c'était est-ce qu'on pourrait pas voir qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Alors, cela dit, il reste des prénoms aussi. Hein. On n'a pas parlé ensemble, mais prénoms, j'ai une fiche là qui nous est arrivée téléphonique. André, qui nous a appelé du Jura pour nous dire, sa fille est décédée à l'âge de 7 ans, elle s'appelait Nausicaa, et il dit, je suis passionné de mythologie. Si ma fille avait eu un petit frère, il se serait appelé Ulysse. Je voulais juste apporter ce témoignage à l'antenne. Oui. Voilà pourquoi je le relais. Vous m'avez apporté un petit texte, ça s'appelle « L'Odyssée d'un Parisien ». C'est vous qui l'avez écrit, ça?
Oui, très rapidement. Voilà. Oui.
Alors on joue, je lis les phrases, vous les décryptez alors, hein, c'est ça? Mais quelquefois on s'arrête très vite. Un beau matin, après avoir pris son bol de céréales...
Alors les céréales, ça vient de Cérès, la divinité des moissons.
Jean constata que le mercure avait remonté dans le thermomètre.
Bon, le mercure, c'est évidemment, ça vient du nom du dieu Mercure.
Et qu'un agréable zéphyr soufflait sur la capitale.
C'est un des vents de la mythologie grecque.
Il décida d'aller se promener dans Paris. Il hésitait sur sa destination. Irait-il vers le Panthéon?
Alors le Panthéon, ça veut dire tous les dieux. Et c'est l'édifice dédié à tous les dieux.
Vers Montparnasse?
Alors Montparnasse, c'est le mont au-dessus de Delphes où habitait Apollon.
Ou vers le champ de Mars?
Et le champ de Mars, c'est le champ du dieu de la guerre, Mars.
Et il se décida finalement pour les Champs-Élysées.
Alors les Champs-Élysées, c'est l'équivalent du paradis dans le monde de l'au-delà chez les Grecs.
Et de l'air martial d'un homme pensant être sorti de la cuisse de Jupiter, notre Apollon commença son odyssée sur la célèbre avenue.
Alors martial, bien sûr, c'est venant de Mars, de donc Mars, de l'air guerrier d'un homme. Ouais. Alors sorti de la cuisse de Jupiter, c'est une allusion à la naissance de Dionysos, la mère de Dionysos ayant été foudroyée. Le père était Zeus. Zeus va sortir, là encore on a une histoire d'enfant que l'on sort du ventre de sa ventre de la mère. Oh là là. Et pour le mener à terme, il va le coudre dans sa cuisse. Et l'enfant va naître de la cuisse de Jupiter et non pas du ventre de sa mère.
D'accord.
Alors Apollon, c'est le dieu des arts, de la musique.
Mais attendez, pardonnez-moi, avant Apollon, donc ça veut dire que sortir de la cuisse de Jupiter,
c'est avoir une
opinion de soi.
Tout à fait, parce qu'on a une naissance tout à fait exceptionnelle. Il y a deux divinités comme cela. Il y a Dionysos qui est sorti de la cuisse de Jupiter et Athéna Minerve qui est sortie de la tête de Jupiter.
Vous n'avez pas dit Dionysos, vous avez dit Dionysos. Pardon, oui, d'accord. Non.
Alors Michel, Apollon, si d'accord, et l'Odyssée, bien, c'est la grande aventure d'Ulysse sur les mers. Voilà.
Alors bon, je vais pas vous faire ça peut durer très longtemps, mais lire le texte, parce que maintenant, ça va faire tilt à chaque fois, je vous arrêterai si...
Oui, bien sûr, oui,
alors,
oui.
Mais la sirène d'une ambulance portant un caducée, la musique d'un orphéon jouant devant l'Arc de Triomphe, les sons discordants d'une flûte de pan, d'un mendiant, étaient tellement bruyants qu'il décida de s'enfoncer dans le dédale d'une galerie marchande, véritable corne d'abondance des boutiques de luxe proposées dans leurs vitrines ornées de bouquets d'iris, de jacinthes et de narcisses, des lingeries arachnéennes, des foulards Hermès ou des sacs en peau de Python. Python, pourquoi Python ?
Alors Python, c'était le serpent qui était sur le site de Delphes et que Apollon va vaincre, donc Apollon va s'installer sur le site de Delphes. Oui. Et Python était un enfant, ou en tout cas une émanation de la terre originelle, qui était là sur le site de Delphes. Et donc Apollon délivre le site de Delphes de cet énorme serpent et il prend la place. Donc,
et alors, à propos de serpent, le caducée que qu'arborent tous les médecins sur leur voiture, ça leur permet d'échapper aux contraventions, quoique je ne suis pas sûr que ce soit encore possible.
Mais alors le caducée, c'est le caducée d'Hermès. Ouais. Alors Hermès avait un bâton, parce que c'était le dieu des voyageurs, c'était le dieu des voleurs, des voyageurs. Et Hermès donc bougeait beaucoup, et donc il avait planté son bâton un jour où il se reposait. Oui. Deux serpents étaient venus s'enrouler autour de ce bâton, et donc se rejoignaient au sommet, tête à tête. Et donc c'est ce qu'on appelle le caducée. Alors ça a été à l'origine...
Et alors pour les médecins qui ne sont ni des voyageurs ni des,
parce que Hermès,
ni des voleurs...
Hermès est aussi le dieu des médecins. C'est un des dieux de la médecine, Hermès.
D'accord. Alors, non, il est formidable votre texte, parce qu'effectivement ça montre quand même la présence d'abord dans le vocabulaire de toutes ces êtres. Les gens seraient bien en peine de dire d'où ça vient. Oui. Par exemple, vous dites, à un moment dans le texte, vous dites « Renonçant à ses rêves chimériques, Jean voulut sortir de ce labyrinthe sans savoir qu'il allait tomber de Charybde en Scylla. » Alors, le rêve chimérique,
chimère, c'est un être, là encore, hybride, qui est formé de plusieurs animaux et qui fait partie de ce bestiaire extraordinaire des légendes mythologiques à ses débuts. Donc, il faut se battre contre les chimères, la chimère, mais c'est un être à la fois, elle a des traits du serpent, de la chèvre, du lion, etc.
Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, dans la science actuelle, on appelle des chimères...
On appelle des chimères des êtres hybrides, c'est ça.
Voilà,
qui sont
des
nés,
tissus, avec des tissus animaux, des tissus...
C'est le sens premier de chimère,
Humain, quoi. Ouais. Alors bon, on passe sur les aventures de votre Parisien au cours de son odyssée dans la ville, et puis à un moment, alors il est médusé par un spectacle...
Méduse était une des furies, et elle avait une chevelure de serpent, donc elle avait des cheveux sous forme de serpent, et surtout elle avait un regard qui pétrifiait celui qui l'a regardé.
Ah, et c'est donc, pour ça qu'on dit il est médusé.
Il est médusé, donc il ne pouvait plus bouger. Voilà. Alors le héros Persée il va s'emparer de Méduse, mais que va-t-il faire? Alors il va marcher à reculons en portant un miroir. C'est-à-dire qu'il voit la tête de Méduse, mais il ne la voit pas en face. Donc,
il n'est pas médusé.
Il coupe la tête de Méduse, il rapporte la tête de Méduse à Athéna Minerve, qui va la clouer sur son égide, puisque Minerve portait comme bouclier, c'est une déesse de la guerre à l'origine, et Athéna Minerve, elle portait une peau de chèvre, et elle va donc fixer cette méduse, cette tête de méduse sur la peau de chèvre, et dans la représentation d'Athéna, on la voit avec cette tête entourée de serpents, qui a la tête de méduse.
Et alors notre Parisien Jean, par quoi est-il médusé? Eh bien, parce que c'est sur des airs de Calypso, hommes et femmes, véritables satyres et nymphètes, se mêlaient dans une bacchanale érotique en buvant des poissons aphrodisiaques, pris de panique, alors nous voilà, panique, devant le chaos qui régnait dans la demeure de son amphitryon, Jean décida de se retirer sous sa tente et retourna dans ses pénates, où il se réfugia dans les bras de Morphée. Voilà. Et alors, aphrodisiaque, bon, on a compris,
c'est Aphrodite, la divinité de l'amour.
Voilà, oui. Donc les produits par extension qui créent l'amour. Il y avait donc l'amphitryon.
Alors l'amphitryon, c'est le mari d'Alcmène, c'est le roi de Thèbes, mari d'Alcmène, et c'est en relation avec une des aventures amoureuses de Zeus, puisque Zeus, profitant de l'absence d'Amphitryon, qui est à la guerre, va prendre la forme d'Amphitryon pour entrer dans le lit d'Alcmène et lui faire un enfant qui va être Héraclès, Hercule. Et oui, et reçoit. Et alors, ce qui se passe dans les pièces de théâtre, c'est qu'Amphitryon revient alors que le faux Amphitryon est encore là. Donc toute une série de malentendus et Amphitryon reçoit Amphitryon en fait.
D'accord. Et c'est là, Catherine Salle, que d'une voix de stentor.
Stentor était un géant qui avait une voix évidemment tout à fait redoutable.
Voilà. Eh bien, je vous dis que c'est l'heure de la pub.
De Minor à Hercule. Il faut dire que Minor n'existe pas dans la mythologie grecque.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement. D'accord. Vous avez raison de le rappeler parce que plein de gens nous posaient la question.
Donc, oui, mais quand on dit Hercule, c'est du latin en plus.
Oui, hein, c'est Héraclès.
Voilà. De Minor à Hercule, en fait, oui. Voilà. Il y a un mélange de mythologie grecque et romaine.
Minor n'existe pas, Terminator non plus. On est bien d'accord là-dessus.
On revisite la mythologie, en tout cas.
Alors, absolument. Alors, il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui nous appellent pour vous poser des questions au passage, puisque vous êtes semblait incollable. Jacqueline, qui vous appelle de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, dit « Pourquoi l'imaginaire de l'homme, même dans ses mythes anciens, n'a jamais pu envisager autre chose qu'un dieu terrestre ?» D'abord, est-ce qu'on peut parler d'un dieu dans les mythes anciens ?
C'est pas tout à fait exact. Enfin, puisque vous avez, chez les Grecs en tout cas, des dieux sur la terre, des dieux dans la mer et des dieux dans le ciel. Hein. Vous avez trois domaines et puis des dieux infernaux, c'est-à-dire les dieux qui sont sous la terre dans le domaine des enfers. Ouais. Mais c'est vrai que dans une mythologie ou dans une religion, on ne peut envisager que de dieux qui sont dans l'univers des hommes. Sinon, ils n'auraient aucune influence sur les hommes et par conséquent, n'auraient pas d'importance.
Bien sûr. Et alors, cette invention formidable qui est de faire en sorte que les dieux s'incarnent finalement pour être vus par les hommes, parce que s'ils arrivaient dans leur état de dieu, crois, je ne sais plus dans quelle légende d'ailleurs, ça se passe très
c'est
mal.
C'est Zeus, qui va apparaître.
Qui regarde Zeus,
C'est une des femmes qu'il aime.
Voilà,
et elle lui dit, apparais-moi dans toute ta gloire. C'est Danaï. Ta gloire. Et la gloire de Zeus, c'est l'éclair. Et Zeus apparaît effectivement dans toute sa gloire, avec des éclairs, avec de la lumière. Et Danaï est consumée. Et c'est là où Zeus retire le petit Dionysos pour le coudre dans sa cuisse.
Alors, dans un petit instant, il y a pas mal d'auditeurs qui vous appellent pour dire, expliquez-nous pourquoi Freud, par exemple, s'est intéressé au mythe d'Édipe. Alors, avant de répondre à ça, simplement, on va parler avec Christelle quelques instants, qui nous a appelé, qui est archéologue dans la région de Bordeaux. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Alors, vous devez vous régaler, vous, ce matin, parce que je crois que vous aimez beaucoup les contes, cet univers de la mythologie vous plaît beaucoup.
Oui, et c'est d'ailleurs ça qui m'a, on va dire, légèrement orienté.
Pour votre métier.
Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, lorsqu'on démarre ses études, donc que ce soit à la Sorbonne ou à l'école du Louvre, on demande donc aux élèves de lire les Métamorphoses d'Ovide, parce qu'en fait, c'est le béaba, si vous voulez, pour d'abord s'initier au mythe.
Ouais. C'est la bonne entrée, vous voulez dire, pour s'initier à la mythologie grecque, quoi.
Si vous voulez, c'est un petit peu la Bible d'histoire de l'art pour ce qui est de la reconnaissance des œuvres. La plupart des artistes, en fait, à partir de la Renaissance, ont énormément représenté donc les mythes.
Oui.
Et souvent, on se trouve face à des œuvres donc avec des dieux représentés, des nymphes, et il est très difficile de décrypter les scènes si on n'a pas lu les Métamorphoses d'Ovide, par exemple.
D'accord.
Et donc c'est disons que c'est un des livres, si vous voulez, parmi tous les livres que nous devons donc absorber, ouais, qui nous permettent, si vous voulez, de mieux comprendre les œuvres. Et puis moi, évidemment, c'est l'amour de d'Ovide qui m'a évidemment orienté vers ma profession.
Voilà, ben écoutez, vous êtes allé déjà sur, j'allais dire, sur les lieux,
oui,
où on a inventé ces légendes à Delphes, par
exemple. Oui, oui, oui.
C'était là où était la fameuse Pythie dont on parlait, alors.
Voilà, exactement. Et donc j'ai profité en fait d'un voyage avec notre professeur de philosophie en terminale, donc pour un voyage donc en Grèce pour découvrir un petit peu les lieux. Et puis ensuite je me suis dirigée vers l'école du Louvre où là j'ai appris que voilà, il y avait un certain nombre d'ouvrages dont Ovide qu'il fallait absolument lire pour pour mieux appréhender tous ces mythes.
Très bien, bah écoutez, je vous demande pas si vous avez vu le film de Jean-Jacques Hano, parce qu'apparemment ce n'est pas le cas.
Pas encore, non, pas encore. Mais c'est vrai que ça donne vraiment envie, et puis ça, c'est, si vous voulez, je pense qu'on sort un peu de l'image de la mythologie lisse. Hein.
Ah oui, et, ça c'est sûr, là, c'est pas lisse.
Ça sera intéressant d'avoir ce point de vue-là.
C'est plein d'aspérités, il y a même des bouts de dialogue un peu à la Audiard, si vous voulez. Mais ça, après, voilà, c'est peut-être ce qui crée d'ailleurs, la polémique, tout au moins les avis très partagés des spectateurs. Quoi.
Ouais. Enfin,
merci infiniment de votre coup de fil, Christelle. Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors, Catherine Salle, on reviendra peut-être sur Ovide, parce que vous voyez, acquiescer à tout ce que disait Christelle.
Oui, elle a tout à fait raison de dire qu'Ovide est une entrée merveilleuse dans la mythologie. Oui.
C'est un poète.
C'est un poète du règne d'Auguste, donc qui a écrit un peu avant le premier siècle, avant notre ère.
Poète latin, lui.
Et qui a en particulier composé ces métamorphoses, qui, le titre l'indique, sont consacrées aux métamorphoses, justement, de telle divinité, de telle nymphe en laurier, de telle en ours, et qui est un catalogue absolument merveilleux de toutes les légendes mythologiques, et même de certaines qui ne sont pas connues avant. Alors on ne sait pas s'il les a inventées ou si elles existaient sans que nous ne les connaissions.
Alors on va se retrouver dans un tout petit instant et on va parler d'Oedipe et du complexe d'Oedipe et donc de Freud. Et vous disiez tout à l'heure, quel dommage, comment se fait-il que les psychanalystes n'aient pas aussi, ne se soient pas aussi servis d'autres mythes. Donc on parlera de tout ça parce que finalement, ces mythes, ces légendes sont dans notre inconscient également. Alors à tout de suite, 01 42 32 15 15 hein, pour le téléphone si vous avez d'autres questions à poser à Catherine Salle.
Passionnante Catherine Salle qui nous en parle en plus pendant les publicités. Catherine Salle, je rappelle, est maître de conférences de civilisation et littérature latine à Paris 10 Nanterre. Elle est auteure de nombreux ouvrages consacrés à l'Antiquité. On est en pleine mythologie ce matin.
Voilà, et là, on va être en plein pathos, psychanalytique maintenant. Essayer de comprendre pourquoi Sigmund Freud s'est tellement intéressé à ce qu'il a appelé lui le complexe d'Oedipe. En fait, s'est intéressé à l'histoire d'Oedipe. Alors, je commence et je vous laisse poursuivre, Catherine Salle. On va dire que dans la réalité, là on ne parle pas de psychanalyse pour l'instant, dans la réalité de l'histoire qu'on a racontée.
Voilà.
Oedipe est un enfant adopté, mais il n'est pas au courant qu'il est un enfant adopté, et il y a une malédiction qui lui a annoncé qu'il devrait tuer son père et qu'ensuite il épouserait sa mère, et à ce moment-là il va quitter sa famille pour ne pas réaliser cet inceste, hein, c'est ça?
Tout à fait ça, oui, oui. Ouais. Parce qu'il avait été abandonné par ses véritables parents, parce que ses véritables parents, on leur avait déjà fait cet oracle en disant le fils que vous aurez tuera son père, épousera sa mère. Il dit pas question de ça, donc ils l'ont attaché dans la montagne par les pieds. Et le mot Oedipe veut dire pied gonflé, parce que la corde qu'il attachait par les pieds lui a fait gonfler les pieds. Donc Oedipe pousse, pied gonflé. Et donc il va... Donc quand il apprend par l'oracle de Delphes, toujours Delphes. qu'il va tuer son père et épouser sa mère, il est catastrophé, donc il dit je rentre pas chez moi. Ouais. Et il prend une route que l'on montre toujours, d'ailleurs, quand on visite la Grèce, là, quand on montre vers Delphes.
La route existe.
On vous montre, c'est ce qu'on appelle une patte d'oie, en français, c'est-à-dire une route avec deux autres qui partent.
Ouais.
Et là, il y a un conflit entre conducteurs de chars. Il est sur son char, il y en a un autre qui arrive en face, qui veut la priorité. marche, ils se disputent tous les deux, voilà. Et Édipe tue le conducteur du char en question.
Au cours de cette altercation, quoi.
Et puis alors, il arrive à Thèbes, donc, ouais. Et là, il y a une sphinx, hein, parce que c'est pas un sphinx, c'est une sphinx, c'est-à-dire ouais. Un personnage qui a des grandes ailes mmh. et qui permet d'entrer à ceux qui sont capables de donner la réponse à sa devinette. Ouais. Personne, s'ils ne sont pas capables, elle les mange. Ouais. Alors elle pose la devinette. Ouais. Qui est-ce qui est à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi et à trois pattes le soir.
Voilà.
Et donc Édipe sait donner la solution. Il dit c'est l'homme parce que ouais. quand il est petit bébé, il marche à quatre pattes. À midi, voilà. quand il est âge moyen, il marche sur ses deux jambes. Ouais. Et quand il est âgé, il a une canne, voilà. donc il a trois jambes. Ouais. Et donc on le reçoit comme le sauveur, et on lui fait épouser, enfin on lui raconte, oui, notre roi, on ne sait pas ce qu'il est devenu, oui. il est mort probablement, oui. et on lui fait épouser la reine,
d'accord.
Jocaste.
Mais lui ne sait pas qui l'a tué au cours de cette altercation, il n'est pas au courant du tout. Hein,
et puis, ouais. au bout de quelques temps, enfin il a quatre oui. enfants avec Jocaste, oui. et au bout de quelques temps, il y a une peste qui s'abat sur la ville de Thèbes, oui. et on cherche à savoir la raison de cette peste. Oui. Et il y a la pièce de Sophocle qui s'appelle Édipe Roi, qui est une merveille parce que c'est un roman policier. C'est-à-dire qu'Édipe est le détective et il va chercher qui est le responsable de cette peste, qui a suffisamment offensé les dieux pour oui. qu'il donne oui. la peste. Oui. Et dans toute la tragédie, on le voit petit à petit découvrir qu'il a tué un homme et que cet homme était Laios. Et qu'il a épousé une femme, que cette femme était Jocaste. Oui. Et que lui-même et fils de Laios et de Jocaste.
Il a tué son père.
Il a tué son père et épousé sa mère.
Et
donc
mère.
Il va se
comme
crever
le
les
disait,
yeux.
Voilà, ouais.
Il va avec la graffe de son manteau, il va se crever les yeux. Ouais. Sa femme, mère, Jocaste, se pend. Ouais. Et Édipe s'en va avec une de ses filles, Antigone, et ils vont ouais. partir vers Athènes.
Voilà, il va mendier au bord des
voilà,
routes, c'est
tout
ça.
À fait,
voilà.
tout à fait.
Ça, c'est la véritable histoire d'Édipe.
C'est la véritable histoire d'Édipe.
Ouais. Alors donc, l'idée de Freud, c'était simplement connaissant cette histoire, dire que dans le développement d'un enfant, s'il s'agit d'un garçon, il va avoir furieusement envie de tuer son père à un certain moment, pour être le mari de sa mère.
Pour être le mari de sa mère.
Et l'inverse par rapport aux petites filles.
Oui, voilà. Ouais. Et puis, oui, le mythe d'Antigone, qui elle veut rester avec son père et ne se mariera pas d'ailleurs.
Ouais. Alors, mais c'est le seul quasiment passage d'un mythe à oui. un grand principe de psychanalyse, oui, à votre connaissance.
Tout à l'heure, j'avais évoqué l'histoire de Gaïa avec Uranos ouais. et les enfants qu'elle avait dans son ventre et l'enfant qui coupait le sexe de son père avec ouais. une faucille ouais. et puis après le Cronos, le père qui mangeait ses enfants ouais. ça aurait pu tout aussi bien servir parce qu'on a quand ouais. même la même valeur du mythe hein. on ouais. tue le père pour donner la liberté à la mère en plus hein,
ouais,
parce que
absolument.
C'est pas tout à fait la même chose.
Voilà.
Bon, il y a très peu de mythes. Il y a par exemple les psychanalystes utilisent beaucoup les figures de divinités épouvantables comme les furies, comme Méduse dont on parlait tout à l'heure ouais. pour montrer que dans les mythes elles sont en fait l'expression d'une peur primitive, enfin d'une peur ouais. Primitive monsieur.
Ouais. Alors il y a une chose moi qui m'a toujours, on n'a pas préparé cet entretien hein, comme toujours hein, d'ailleurs c'est une conversation voilà autour d'un thème, on essaye simplement d'avoir moi j'essaye d'avoir en face de moi la personne qui sait. Il y a une chose qui me fascine, c'est que on se dit mais qui a inventé ces histoires ? Alors, on le sait pas hein, et on le saura jamais. Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que ce sont des écoles d'écriture ? Enfin, bon, il a bien fallu quand même que oui, ça se raconte.
La plupart du temps, je pense que ce sont des cultes locaux.
Oui.
Une divinité oui. qu'on honore parce que oui. elle guérit, par exemple, de la paralysie.
Oui,
et puis
oui.
petit à petit, on va
oui,
faire
mais
une
pour
légende
en arriver
là-dessus.
À quelque chose ah, oui. d'aussi construit parce que ces oui. que ces mythes ah, oui, et que ces légendes, ce que vous disiez tout à l'heure. Bon. Et alors, je me demande si parfois vous savez, on vient de parler de Freud,
oui,
mais
oui, oui.
Jung aussi, mmh. qui lui parlait de l'inconscient collectif.
Oui.
Et Jung disait que parfois surgissait de notre inconscient par l'intermédiaire du rêve mmh. des histoires qu'on peut rêver, enfin qu'un rêveur de maintenant, de quelqu'un qui oui. n'est pas spécialement allé à l'école et qui n'a jamais lu dans aucun livre ni Ovide ni les mythes grecs, va se réveiller un matin en disant tiens c'était curieux ce truc là, je suis descendu sous la terre et puis là il y avait une barre qu'il fallait passer
voilà,
et
oui.
puis je crois que j'étais mort, mais j'étais
oui.
pas tout à fait mort parce
oui,
que ma jeune,
oui,
etc.
Oui, oui, oui.
Et ce sont des mythes qui, comme ça, qui surgissent à l'état
oui,
pur,
oui.
quand même.
Et c'est bien, c'est effectivement ce que les psychanalystes disent, c'est que on a dans la figuration des mythes, effectivement, des forces primitives que des peuples, en fait, que l'on, oui. que les peuples ont à l'intérieur d'eux, oui. et qui surgissent sous une forme animée, que ce soit humaine, animale, même des arbres. Oui. Effectivement, là, on pense que le mythe n'est pas gratuit. Le mythe est toujours l'expression d'une, enfin de crainte ou de désir que l'homme ou un peuple ou l'humanité a en elle.
Oui. Alors, moi, il y a une autre question que je me suis posée depuis toujours. Alors, je vous pose toutes mes questions. Hein. Je suis venu avec mes questions, vous êtes venu avec vos réponses. On parle beaucoup de la Grèce antique, parce que là, apparemment, il s'est vraiment passé quelque chose, des milliers d'années avant notre ère. Mais il y avait la Chine aussi, d'un autre côté. Il y avait peut-être d'autres civilisations à travers le monde.
Elles ont inventé aussi. Ne me posez pas de questions sur la mythologie chinoise, parce que je ne la connais pas. Oui. Enfin, il y en a une, bien sûr. Oui. De même qu'il y a une mythologie indienne.
C'est ça.
Il y a une mythologie japonaise.
Mais apparemment, alors, vous allez voir, rassurez-vous, parce que j'y avais pas de piège. Apparemment, les mythes chinois, ce que je m'apprêtais à dire, sont restés dans cette sphère asiatique. Alors que.
Quand même.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais les mythes gréco-romains, enfin, les mythes grecs, ils ont vraiment, essaimé dans tout l'Occident.
Dans tout l'Occident, parce que, alors là, on en revient à ces thèses de cette mythologie qui n'est pas grecque ou romaine, mais qui est indo-européenne. Vous savez, tout le problème des indo-européens, puisque tous les peuples du bassin méditerranéen sont, enfin, non, en tout cas, sont des indo-européens, sauf les Basques, hein, qui eux sont à part.
C'est toujours une énigme, d'ailleurs.
Et donc, quelqu'un comme Dumézil, qui s'est intéressé de très près à la mythologie indo-européenne, a montré comment, dans différents peuples, on avait des légendes attachées à des dieux de ce peuple, et qui, en fait, se retrouvent dans d'autres légendes de d'autres peuples. Ouais. Donc, il dit, bon, même si les indo-européens, c'est une construction de l'esprit, nous n'avons pas de reste de peuple indo-européen. Mais on retrouve chez tous les peuples d'origine indo-européenne, c'est-à-dire d'origine non sémite, puisque l'autre grande origine du bassin méditerranéen sont les sémites. Donc d'origine non sémite, on retrouve des structures de pensée qui sont les mêmes, des structures sociales qui sont les mêmes, et des mythologies qui s'apparentent. Hein, donc, on peut trouver des correspondances entre tel mythe romain, par exemple, ça, Dumézil l'a beaucoup fait, entre tel mythe romain et tel mythe irlandais.
Bien sûr. Hein,
on a des héros qui sont comparables.
Qui sont comparables et qu'il arrive des choses comparables.
Donc c'est pour ça que, en fait, nous connaissons surtout ceux qui ont été donnés par la Grèce, parce que nous avons des textes. C'est ça. Mais il faudrait pouvoir avoir des textes, ceux que nous n'avons pas, sur par exemple la mythologie gauloise. La mythologie gauloise, il y a des dieux extraordinaires en Gaule, avec des dieux avec là aussi mi-homme, mi-bête, mais il n'y a pas de texte en gaulois, donc nous ne savons pas quelle était la mythologie gauloise.
Alors on va se retrouver dans un petit instant, vous permettre de reprendre souffle. 01 42 32 15 15 pour toutes vos questions à Catherine Sain. Il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble. Europe1.fr si vous êtes sur internet pour nous envoyer évidemment des courriels.
À l'occasion de la sortie du film de Jean-Jacques Haneau, le film est sorti hier,
Sa Majesté Mineure,
voilà. J'avais pas le titre exact sous les yeux. On parle de la mythologie, parce que ce film s'inspire un petit peu quand même de la mythologie grecque et romaine, en déviant certains mythes d'ailleurs, en les respectant forcément, mais enfin c'est pas grave.
Après tout, c'est l'artiste a le droit de mettre tout ça dans un grand sac et de secouer. En attendant, regardez, il nous a fait faire déjà une heure et demie d'émission.
Alors nous sommes avec quelqu'un de sérieux, de spécialiste, c'est Catherine.
Mais le film est sérieux aussi de ce côté-là, mais film est pas, c'est pas iconoclaste. Enfin, vous le verrez, vous aurez peut-être un avis différent, mais je crois qu'il a volontairement été pioché.
Il n'y a pas de règles pour la mythologie.
Voilà.
On peut dire tout ce que l'on veut sur la mythologie.
Exactement. Puis chercher, vous savez, dans le film, c'est comme dans le cinéma muet. De temps en temps, il y a des panneaux avec une phrase au milieu, vous voyez, où on comprendra que quand on respecte pas ces sujets, il arrive des bricoles. Enfin bon, j'invente là, bien sûr. Alors, Catherine Salle, écoutez, on va prendre Denise au téléphone parce qu'elle a des questions à vous poser à propos de mythologie. Bonjour Denise.
Bonjour.
Alors vous êtes artiste peintre installée à Mougins.
Oui, tout à fait.
Et vous connaissez apparemment la mythologie puisque vous voulez qu'on parle de qui ?
De Cybèle.
Cybèle. Alors c'est écrit C-Y-B-E-L-E. L-E, hein, voilà. Était-elle belle, Cybèle ?
Ah, je ne sais pas, parce qu'à l'origine, elle n'est pas représentée anthropomorphiquement. Oui. Cybèle est une divinité de la nature. On l'appelle aussi la Grande Mère. Et c'est une divinité de la nature qui est honorée en Anatolie, c'est-à-dire en la Turquie. Enfin, c'est une divinité que l'on représente très souvent sous la forme d'une pierre à l'origine, ce qu'on appelle un bétil, qui est une pierre sacrée, ouais, que l'on revêt de vêtements d'ailleurs, mmh, et qui est honorée là-bas. Et il se trouve que le culte le plus essentiel, le plus grand de Cybèle, se trouve dans la ville de Pessinonte, qui est près de la Troie antique, là où il y a eu la guerre de Troie. Ouais. Et au IIIe siècle avant notre ère, les Romains, qui sont en pleine guerre punique contre Hannibal, ouais, sont en train de perdre plus ou moins, et ils se disent, on va essayer de ranimer le courage des Romains, ouais, en faisant venir une divinité nouvelle qui va protéger les Romains. Ouais. Et ils ont l'idée d'aller chercher ce bétil, cette pierre noire en fait, oui, qui on va rapporter à Rome en grande pompe. Mmh. On va l'installer sur le Capitole, enfin, oui, donc vraiment un temple. Mmh. Et mais alors ils sont pas méfiés que le culte de Cybèle était assuré par des prêtres qui étaient des eunuques. C'était les Galles, c'était des eunuques.
D'accord.
Et donc, il était impossible pour un citoyen romain de devenir prêtre de Cybèle.
Oui.
Alors, petit à petit, on va la représenter sous une forme humaine. Elle est généralement dans un char traîné par des lions.
Ouais.
Et elle porte sur la tête une couronne de remparts de ville.
Ouais.
Et elle est devenue une divinité. Enfin, son culte même, avec les Galles, n'est pas vraiment pratiqué.
Ouais.
Mais vous avez tous les ans une grande fête pour Cybèle, avec son amant, qui est un jeune berger,
ouais,
qui a été tué, mutilé et tué.
Ouais.
Et on fête tous les ans la renaissance, la mort et la renaissance, la résurrection d'Attis, qui est ce jeune berger.
Mais alors, ce sont des Romains qui ont eu l'idée d'aller, oui, chercher
parce
cette...
Parce qu'elle était... Bon, c'était à côté de Troie. Et vous savez, ouais, que, oui, les Romains, qui étaient toujours très soucieux de montrer qu'ils étaient aussi vieux que les Grecs dans l'histoire du monde,
ouais,
se faisaient descendre, disait-il, d'Énée, qui était un des Troyens,
ouais, ouais,
venu sur la côte italienne. Donc, en allant chercher une divinité dans la région de Troie, qui était une divinité, d'après eux, contemporaine de la guerre de Troie, eh bien, ils montraient que cette divinité était la leur,
d'accord,
et que par conséquent, ils étaient aussi anciens que les Grecs, et que les Grecs, d'accord, n'avaient pas besoin de faire les malins.
Ouais. Denise, pourquoi vous aviez envie de faire parler de Cybèle à Catherine Salles?
Bah, écoutez, il se trouve que j'avais un oncle qui est décédé depuis longtemps, qui était passionné de mythologie, et il m'a légué un livre de mythologie que je n'ai jamais pu lire tellement il est complexe.
Ah.
Et lorsque j'ai construit ma maison, je l'ai appelée Villa Cybèle.
Ah.
Bon, en son honneur, disons, hein, et bon. J'ai cherché des documents sur Cybèle et je n'ai pas trouvé grand chose.
Bon.
Tout simplement parce que ce n'est pas une divinité gréco-romaine, Cybèle.
Voilà.
C'est une divinité anatolienne, c'est-à-dire d'Asie mineure.
D'accord.
Et on peut trouver, pour en savoir tout ce que vous venez de dire là, on n'a pas pris de notes.
Il y a un livre sur Cybèle, mais qui est, ouais, un livre un peu savant, qui a été écrit, ouais, mais il y a déjà un certain temps, par Henri Graillot, Graillot.
Ouais.
Mais vous avez alors des livres plus récents sur ce qu'on appelle les divinités orientales dans l'Empire romain.
Ouais.
Vous en avez un en particulier de Robert Turcan, T-U-R-C-A-N,
ouais,
qui est sur les divinités orientales dans l'Empire romain. Et il y a Cybèle, bien sûr.
Bon, très bien.
J'avais une autre question.
Oui, je vous en prie, allez-y, Denise, il nous reste encore quelques deux minutes.
Il m'a semblé avoir lu que les Romains enseignaient la mythologie aux enfants à l'école.
Ben, les Romains et les Grecs, ça faisait partie de l'enseignement, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, l'enseignement se faisait à partir de textes littéraires, en particulier l'Iliade et l'Odyssée, l'Énéide de Virgile et des textes de cette nature-là. Donc, ouais, les enfants devaient très bien connaître la mythologie pour comprendre le texte en question.
Ouais.
Et ça a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes aux chrétiens qui disaient que on ne pouvait pas, si on était chrétien, devenir professeur, parce que en tant que professeur, on était obligé d'expliquer la mythologie grecque et latine aux enfants.
Ah, d'accord.
Qui ne correspondait pas avec...
Bien entendu, ouais, qui ne correspondait pas avec le christianisme.
Oui. Voilà, bien sûr.
Ouais, bien,
ouais,
sûr.
Ouais, voilà, ma chère Denise.
Donc, en fait, enseigner la mythologie était un acte pédagogique important.
Ah oui, 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 oui. Ça a toujours été ça chez les Grecs et chez les Romains.
Ouais. Considérez, oui, que ça faisait
l'enseignement
partie de la formation.
Secondaire, surtout, était basé sur la mythologie. Sur des textes de mythologie, disons.
Ouais.
D'accord. Et quel pouvait être l'apport pédagogique
Quel était l'apport pédagogique de
l'apport pédagogique, mais vous savez, les personnages mythologiques dans la littérature sont présentés dans des situations où vous avez des situations, par exemple, psychologiques, dans le théâtre, en particulier le théâtre grec ou le théâtre latin. Ouais. Hein, parce qu'on prend Phèdre, etc.
De la farce à la tragédie.
Ah oui, on passe de la farce à la tragédie. Et puis, il y a le problème de la divinité de ces personnages. Mmh. Non, ça donnait lieu, et puis on pouvait parler de la géographie, puisque ils étaient dans des régions différentes du monde, ces lieux. Mmh. Parce que tout enseignement se faisait à partir des textes littéraires.
Et surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, certains lieux véhiculés par ces mythes existent concrètement. On peut y aller. Chemin emprunté par Œdipe.
Oui.
Donc c'est une manière de faire de la géographie.
Oui, c'est une manière, parce qu'ils n'avaient pas, si vous voulez, de leçons distinctes d'histoire, de géographie, de mathématiques, de tout cela. D'accord. On faisait tout à partir des textes littéraires.
D'accord.
Donc la géographie à partir des textes littéraires.
Voilà, il n'y aura...
Merci beaucoup.
Oui, j'allais vous dire en plaisantant, Denise, il n'y a plus le temps pour une autre question, on est allé au bout.
Je n'en avais plus, mais je vous remercie pour vos émissions qui sont toujours très passionnantes.
Mais je vous remercie aussi, merci beaucoup.
Et merci à Catherine.
Merci. Merci.
Voilà.
Au revoir.
Catherine Salle, bien sûr, qui a passé sa matinée avec nous. Peut-être, Julie, vous pouvez rappeler le titre que je n'ai plus devant les yeux du livre, parce que je sais que vous êtes beaucoup plus ordonnée que moi.
Oui, il y a le Larousse des civilisations antiques, paru sous la direction de Catherine Salle, et puis la mythologie grecque et romaine, paru en poche, et là c'est chez Hachette Littérature.
Merci beaucoup Julie, vraiment.
Je vous en prie.
Catherine Salle, de toute façon, on va mettre tout ça, évidemment, si vous n'avez pas noté au vol, si vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas vous arrêter, on va mettre tout ça sur europe1.fr. Voilà.
Et le fameux texte, on ne peut pas le mettre sur...
Et le fameux texte, vous nous donnez l'autorisation de le publier.
Oh, oui, vous savez,
voilà. Ce fameux texte là, qui se déroule dans Paris, une balade dans Paris, avec tous les termes issus de la mythologie.
On vous donne le texte, mais pas les explications de Catherine Salle. Pour ça, il fallait écouter tout à l'heure.
Je vais prendre mon dictionnaire.
Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Écoutez, je vais vous laisser, ma chère Julie.
Et on se retrouve demain matin.
On se retrouvera demain matin.
Voilà. À 7h, c'était Jacques Pradel. Dans un instant, Jean-Marc Morandini.